Éric Duhaime est au bout du fil, comme je le disais. Merci d'être là, Éric. Salutations.
Bonjour, Guillaume.
Congrès très attendu en fin de semaine. Beaucoup évoqué quand il y a eu des questions depuis le début de ton mandat comme chef du parti. Es-tu satisfait de l'affluence? Premièrement, j'ai compris qu'il y avait à peu près 500 personnes qui s'étaient présentées virtuellement, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près un peu plus que 800 personnes qui avaient payé leur participation.
Okay.
Mais il y avait tout le temps entre 400 et 600 personnes en temps réel qui étaient en train de participer au congrès. Il y en a qui sont venus juste une journée. Il y en a d'autres qui partaient. Ils allaient conduire les enfants à l'aréna puis revenaient. Là. Fait que,
moyenne au quart d'heure.
On avait entre 400 et 600. C'est ça. La moyenne au quart d'heure, comme en radio. Fait qu'on avait entre 400 et 600 participants. Mais au total, il y avait un peu plus de 800 personnes là, qui se sont inscrites. C'est un succès de participation, mais c'est surtout aussi pour nous autres l'important. C'est un succès en termes de contenu. Là, je suis très content qu'on se soit doté de politique là, sur les enjeux importants. Tu sais, ça fait un an, moi, que j'ai annoncé que je revenais en politique. Puis depuis ce temps-là, c'est très difficile de parler d'autre chose que de la COVID. Hein. C'est un peu comme vous autres dans les médias. Là, je veux dire, il y a rien que ça. Là, ça faisait du bien de passer deux jours là, puis de parler de finances publiques, de santé, de ressources naturelles, d'éducation, de famille, de culture. C'était vraiment excitant de pouvoir enfin parler d'autres choses puis présenter notre vision aux Québécois.
Pas de doute, beaucoup de choses abordées, comme tu dis, dont ce besoin de se renouveler là. J'ai compris que, justement, on avait orienté question un peu marketing politique, la distinction du Parti conservateur vers le nationalisme québécois. J'ai un chroniqueur qui m'a amené cet angle-là hier. Tu t'es dit nationaliste pendant ce congrès-là. On a parlé d'indépendance énergétique. Côté identitaire, on a touché à l'immigration pour favoriser peut-être plutôt la natalité. Le terrain n'est pas déjà assez occupé côté nationaliste au Québec?
Ben écoute, moi j'étais, je l'avais dit quand j'ai annoncé le 22 novembre, c'est presque un an jour pour jour, là, j'avais annoncé que je voulais que le parti prenne un virage un peu plus nationaliste, que ce soit le Québec d'abord.
Okay.
D'abord parce qu'on est un parti qui est sur la scène québécoise.
Ben oui.
Deuxièmement, parce que historiquement, moi, j'avais pas personnellement voté pour le Parti conservateur du Québec aux dernières élections. J'avais voté pour la CAQ, là, j'étais un CAQ. Puis une des raisons, une des choses qui m'attirait vers la CAQ, c'était aussi cette vision nationaliste-là. Et moi, je voulais l'amener à l'intérieur du Parti conservateur. Puis fort heureusement, les membres ont suivi ça, même ils en ont mis plus que j'en demandais, très honnêtement.
Ouais.
C'est clair qu'on est un parti là, qui est maintenant clairement nationaliste.
C'est fini le Conservative Party of Québec. Ça, c'était de ce que j'avais entendu au débat, très précis comme volonté. Mais nationaliste, là, jusqu'à quel point? Est-ce que c'est moins que le Parti québécois, j'imagine, si on y va au global?
C'est pas un parti souverainiste, là, c'est sûr. Là. On veut faire ça à l'intérieur du Canada, mais on veut nous-mêmes, c'est un paquet dans nos champs de compétences, gérer nous-mêmes nos affaires, puis pas avoir l'ingérence d'Ottawa là, à tout bout de champ sur ce qui se passe. Et par exemple, on donne en matière de santé, nous autres, on veut réformer le système de santé pour le rendre beaucoup plus efficace. On a vu depuis deux ans que notre système de santé, ça prenait 75 personnes aux soins intensifs qui soient à terre. Là. Et là, on peut pas continuer avec un système de santé aussi inefficace alors qu'on investit $1 milliard par semaine dans ce système-là. Pas acceptable comme Québécois de tolérer ça. Donc, on veut instaurer une réforme qui va permettre beaucoup de décentralisation, mais aussi une mixité, c'est-à-dire d'avoir la part du secteur privé, là, d'avoir un système parallèle public-privé.
Ouais.
Donc, c'est le genre de proposition qu'on a adoptée en fin de semaine.
Et c'est assez unique. Par contre, de s'éparpiller comme ça côté fabrication d'un atout, d'un attrait en marketing politique, c'est sûr qu'il faut le faire, mais de trouver la twist. Est-ce que vraiment ça doit être le nationalisme? Je sais que je radote là-dessus, je n'ai parlé au débat, je t'en ai parlé à peu près à chaque fois qu'on a discuté. Une campagne de redonner des libertés aux Québécois, il y a tellement de domaines où le gouvernement est bien trop présent, de l'agriculture où tu n'as pas le droit d'avoir des pommiers en santé chez vous sans être membre de l'UPA. Tout ce qui est véhicule à moteur, c'est un capharnaüm. Il y aurait une belle opportunité de marketing politique de ce côté-là. Est-ce que c'est envisagé?
C'est ça qui va nous distinguer, là, parce que tu sais, à peu près à tous les niveaux, là, au niveau des libertés individuelles, je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup ça le thème. Puis j'étais très surpris. Hein. Il y a beaucoup de gens maintenant au Parti conservateur du Québec qui, historiquement, là, venaient même des partis plus à gauche. Et ce qui les a beaucoup préoccupés ces dernières années, là, depuis le début de la crise sanitaire, c'est de voir comment le gouvernement enlevait notre démocratie puis nos libertés individuelles. Mmh. Et il y a des gens pour qui ils se sont rendus compte que finalement, ils ne sont pas à gauche pantoute, là. Les libertés pour eux autres, c'est important. Puis la démocratie, c'est important pas mal plus que bien des affaires qu'ils entendaient à gauche pas à droite, là. Donc, on va être unique là-dedans, là, je veux dire. On regarde les partis depuis le début de la crise, hein, ils étaient tous d'accord pour suspendre nos libertés. Ils étaient tous d'accord pour mettre la démocratie sur pause pendant 2 ans. On est les seuls qui résistons depuis 2 ans. Et je pense que le temps va nous donner raison.
D'enlever des règlements, ça s'est jamais fait. À chaque fois qu'ils se réunissent à l'Assemblée nationale, il y a de l'encadrement supplémentaire dans la vie de tout un chacun. En santé, j'ai vu là des volontés de libéralisation assez spécifiques. En termes d'assurance privée, ça a été mentionné qu'on aurait le droit d'avoir ça. On a déjà un peu de possibilités en ce sens-là. Ça serait quoi, pour ceux qui connaissent moins les aléas des encadrements au niveau des assurances que le Parti conservateur dans
la plus? D'abord, l'assurance, on a une assurance qui s'appelle l'assurance maladie du Québec, puis qu'on paye très, très cher, comme je viens de le dire, pour avoir. Une assurance, d'habitude, là, quand tu as un dégât ou quand tu as un malheur qui t'arrive, l'assureur, il est là pour te backer, là, pour te donner ce que tu as besoin, puis que ton assurance te rembourse, que te donne les services pour lesquels tu as payé. Mmh. Nous, au Québec, là, on paye, puis quand on arrive pour avoir besoin du service, on attend. Ça n'a pas de sens. L'exemple que je dois te donner, c'est celui que je connais bien parce que je suis allé en Suède de voir comment il fonctionnait le système. Les Suédois, c'est quand même un État très social-démocrate, la Suède. Mmh. Et pourtant, ils ont des hôpitaux. Moi, je suis allé dans un hôpital totalement 100% privé à Stockholm, la capitale de la Suédoise. Et là, tu avais des services qui étaient offerts dans l'hôpital, comme l'hôpital en face, qui est un hôpital public. Et ils se compétitionnaient. Puis si tu as une garantie, tu as une obligation d'avoir des soins dans le secteur public à l'intérieur de délais raisonnables, puis si tu les as pas, mettons, ça dépend quel type de chirurgie, mais à l'intérieur d'une semaine, un mois, 2 mois, dépendamment de quel type de chirurgie, ben tu peux aller à l'hôpital privé, puis le gouvernement rembourse l'hôpital privé. Okay. Puis au total, crois-le ou non, ça revient moins cher au gouvernement. Ah oui.
Ça, il n'y a pas de doute. Maudit Scandinave qui donne toujours l'exemple. Mais pour l'assurance, ici, qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir actuellement? On peut se prendre, mettons, une assurance pour américaine, mais puis il y a du privé. Il y a moyen d'avoir des chirurgies puis d'avoir une assurance pour ça. Et où la limite que tu voudrais casser spécifiquement?
Bien, écoute, présentement, moi, je voudrais respecter, parce que ça s'est déjà rendu jusqu'à la Cour suprême, cette affaire-là. Hein? Ça s'appelle l'arrêt Chaouli. C'était le docteur Jacques Chaouli. Ouais. Il s'était rendu jusqu'en Cour suprême du Canada pour que les gens aient le droit de s'assurer et puissent avoir des services. Finalement, il a gagné. Les tribunaux, la Cour suprême du Canada a dit que tu n'avais pas le droit d'empêcher quelqu'un de payer pour une assurance pour protéger ce qui est le plus important dans sa vie, c'est-à-dire sa santé.
Logique.
Mais les gouvernements ont tordu ça, puis ça a fait en sorte que maintenant, tu peux, pour des affaires, tu sais, mettons, des tests ou des affaires qui sont, sont parallèles, là, mais des choses fondamentales, tu n'as pas le droit. L'idée, c'est de dire, écoutez, il faut respecter la décision des tribunaux. Puis, tu sais, on dit aux gens, là, vous pouvez aller à SAQ, vous pouvez dépenser votre fortune, vous pouvez aller à SQDC, vous pouvez vous droguer tant que vous voulez, vous pouvez aller au casino, vous pouvez vider vos poches, mais vous n'avez pas le droit d'investir une scène dans ce que vous avez de plus précieux, ça dans la vie, c'est-à-dire votre propre santé. Il y a quelque chose d'immoral dans la façon dont notre gouvernement traite le monopole public de la santé actuellement.
L'exode des médecins va être présenté comme un épouvantail. Tu vas répondre quoi à ça?
Bien, d'abord, les médecins actuellement, là, il y a déjà des problèmes parce qu'ils ont, à cause du personnel qui manque, à cause du dysfonctionnement de notre réseau, ils sont pas capables d'intervenir autant qu'ils pourraient. Deuxièmement, on a aussi adopté en fin de semaine, parce que c'est sûr, c'est à moyen pas à long terme, là, ça changera pas demain matin, mais on veut augmenter de 2 à 3 000 le nombre de médecins par rapport à ce qu'on a actuellement, justement pour s'assurer d'avoir une offre qui est plus grande. Pour pas que dès qu'il arrive une petite crisette, là, qu'on se ramasse, qu'on est débordé puis qu'on est obligé de reporter tout le monde.
Non, moi, je pense que la solution, ça aurait dû être des pointés du doigt. On les nomme, là, puis on les ouais, on parle d'eux autres à LCN.
Non, ça, c'est ridicule, là. ce que François Legault a fait, là, de menacer les médecins, de dire qu'il y avait une liste pour rentrer ça à l'Assemblée nationale. Écoutez, là, là-dedans, dans cette liste-là, là, il y a des gens qui, au lieu de prendre des patients là, puis d'être le médecin de famille de bien du monde, là, ils travaillent beaucoup plus à l'urgence ou aux soins intensifs. On veut-tu les enlever de là, je pense. Ben,
même si ça le tente.
Il y a du monde là-dedans qui sont en congé parental.
Bon.
Il y a du monde là-dedans qui c'est des retraités qui sont en phasing out, qui travaillent 10, 15, 20 heures par semaine, qui vont travailler zéro sur les écarts. Ben, je veux dire, c'est complètement démagogique ce que le premier ministre a fait avec des
séries. C'est capoté, sérieux. Mais même si ça leur tente juste de travailler temps partiel, le pointage de doigts, mais c'est parce que c'est rendu un réflexe, j'ai l'impression, avec ce gouvernement-là. Tu vas peut-être en avoir sur ta position et la position adoptée par le parti sur la fiscalité. Impôt oui. unique, c'est adopté, ça?
Non. Ce qu'on a adopté au niveau de la fiscalité, c'est que on veut augmenter. D'abord, on veut réduire les taxes. Donc, le parti conservateur, on pense qu'il faut gérer les finances publiques de façon conservatrice. On veut réduire les taxes. L'objectif à long terme, c'est ça qui a été adopté. Ce n'était pas ma proposition, c'est un militant qui est arrivé avec ça.
Okay.
Ce serait une flat tax, là, un impôt unique. Mais ce qu'on propose là, au cours des prochaines élections, ce qu'on va proposer concrètement aux électeurs, c'est d'augmenter l'exemption de base. Ça, c'est-à-dire le premier montant sur lequel on ne paye pas d'impôts actuellement, c'est le premier 15 000. Nous autres, on voudrait monter ça à 20 000 $
Ben oui.
Et ensuite de ça, les deux premiers paliers d'imposition, c'est-à-dire entre 20 et 46 000, ça passerait de 15 à 13 %, donc baisser de 2 %.
Okay.
Et après ça, de 46 à 92 000, on baisserait d'un autre 2 %. Ça voudrait dire que ça passerait de 20 à 18 % le taux d'imposition marginal.
Oh,
donc, grosso modo, là, c'est à peu près ça. Là, c'est de réduire beaucoup les impôts.
Personne ne peut être contre ça. C'est des salaires de base de classe moyenne. Je vois pas comment quelqu'un pourrait s'opposer à ça. Peut-être que Québec solidaire va trouver une twist. Là. Mais la flat tax, ça, s'il y a des débats à l'interne, tu donneras ce que j'appelle l'exemple à Tigui. Moi, j'ai un chum qui fait 200 000 par année. Il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est ce qu'on appelle un rentier. Puis c'est un vrai exemple. Moi, je travaille 70 heures semaine. Je gagne moins, je paierai la même affaire d'impôt. Aucun sens. Aucun sens.
Ben, tu paierais la même affaire, c'est-à-dire que tu paierais le même pourcentage.
Ouais.
Mais je veux t'expliquer pourquoi on a eu cette réflexion-là. C'est parce que ce débat-là, il a évolué ces derniers temps. Parce qu'on a vu que là, il y a une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus grande. Puis on voit qu'il y a de plus en plus de travailleurs que plus ils gagnent cher, puis plus ils font des heures supplémentaires, moins ça devient payant pour eux de travailler. Et là, on essaie de voir par quel mécanisme on pourrait inciter les gens à travailler davantage, leur envoyer le bon signal, parce que on a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des employeurs qui sont prêts à dire, regarde, tu pourrais travailler un autre 5 heures ou 10 heures dans la semaine, mais si le gars, il reste presque plus rien au bout de la semaine, ça vaut pas la peine. Fait qu'on essaie de voir comment on pourrait, au niveau fiscal, favoriser celles et ceux qui font du temps supplémentaire au lieu de les punir davantage.
C'est sûr que c'est payant au bout de la ligne, puis les personnes âgées aussi qui... on leur a présenté quelques petits allègements pour supposément montrer qu'on fait de quoi pour la pénurie de main-d'œuvre, mais ça reste pas très payant pour du monde qui ont des retraites, qui ont de l'allure un peu de retourner. Là.
Ça, on a d'ailleurs doublé le montant là, justement qu'on permet aux personnes âgées présentement de gagner sans être pénalisées, mais il va falloir faire beaucoup plus pour eux aussi parce que il y en a beaucoup de parties. Aujourd'hui, d'avoir 70 ans, c'est pas comme 70 ans il y a 40 ans. Là. Les gens sont encore très en forme. Puis il y a des gens qui sont prêts à travailler 10, 15, 20 heures. Puis souvent, ils ont une expertise, ils ont une connaissance qui vaut celle des jeunes. Oui. En 20 heures, ils sont capables d'en faire autant que nous autres. Là. Donc, il y a une importance là, d'additionner la contribution des personnes plus âgées. Puis ça aussi, on a pensé que c'était important là, de leur donner un break au niveau fiscal. Puis pour l'ensemble des contribuables aussi, parce que là, on le sait, là, il y a une inflation qui s'en vient. Là. Ça veut dire que les prix d'à peu près tout, on le voit à l'épicerie, là, ça commence à augmenter puis ça n'a pas fini. Et ça, si on ne donne pas des baisses de taxes équivalentes, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train d'appauvrir le monde parce que vos augmentations de salaire vont être plus faibles que les augmentations de ce que vous achetez.
Exact. C'est comme une augmenter l'imposition ou une taxe de plus. Changement de registre, Éric Duhem, en toute candeur, question bien simple sur l'environnement. Quoi de neuf? Oui. Qu'est-ce qui a été amené comme mesure ou volonté de préservation au Congrès?
Ça a été une des mesures qui va peut-être faire le plus réagir nos amis de Québec solidaire, puis même de la CAQ, parce qu'on rentre pas mal à la même place sur ces enjeux-là.
Oui.
nous, on veut recommencer à exploiter et à explorer nos possibilités gazières et pétrolières au Québec.
Okay.
Et d'un point de vue environnemental, on dit que ça va être mieux. On veut que le Québec devienne autosuffisant en matière énergétique, c'est-à-dire que on creuse puis on prend le pétrole. On importe là, 300 000 barils de pétrole par semaine au Québec. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'on est capable là, de prendre ça chez nous plutôt que de faire transporter ça sur des milliers de kilomètres. Des fois, ça vient de législations qui ont des normes environnementales beaucoup moins sévères que les nôtres.
Ouais.
Et d'un point de vue environnemental, il y a même le gaz, par exemple, on disait qu'il pouvait y avoir des pertes jusqu'à 30 % juste pour le transport.
Mmh.
Donc, d'avoir une énergie qui est produite ici, ça pourrait être bénéfique pour l'environnement. Puis je comprends qu'on est en transition, puis qu'on est tranquillement en train de tenter de réduire notre consommation d'essence. Mais la réalité, là, c'est que la demande mondiale, autant pour le gaz que pour le pétrole, va continuer d'augmenter encore pendant 25 à 30 ans minimum. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à importer, puis à s'appauvrir, puis à acheter ça de l'étranger, ou est-ce qu'on fait travailler du monde chez nous pour produire un pétrole puis un gaz qui vont être environnementalement un peu plus sains? C'est ça le débat qu'on a, puis on a décidé d'aller d'être le seul parti qui va proposer de faire ça, parce que François Legault, hein, il a déjà écrit lui dans sa biographie qu'il voulait que le Québec devienne la Norvège d'Amérique.
Ouais.
On exploite nos ressources. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il a changé complètement de discours, puis là, il s'apprête à adopter un projet de loi pour bannir toute forme d'exploitation du gaz et du pétrole au Québec. Puis il y a des entreprises qui ont des droits au Québec pour explorer puis exploiter. Et là, on va se ramasser on va être obligé de les dédommager pour le potentiel qu'ils vont perdre. Ça risque de coûter des milliards au gouvernement du Québec. D'ailleurs, ils ont déjà commencé, ils ont perdu le contre une entreprise en Gaspésie la semaine passée devant un tribunal. Puis ça, c'est des milliards qu'on va payer pour s'empêcher d'exploiter nos propres ressources puis pour s'appauvrir, enrichir les autres. C'est complètement fou, raide, cette affaire.
C'est toujours paradoxal de les voir aller puis que ça soit la CAQ ou Québec solidaire. Ça chiale à plein sur le gaz de shale. Récemment, ça a été de plus en plus ça qu'on exploite, qu'on a dans nos raffineries ici. Mais si on avait une plateforme, exemple, dans le golfe Saint-Laurent, puis ça serait du forage, donc on puise dans une nappe, c'est du pétrole qui est bien moins polluant. En plus, on n'a pas besoin de le transporter, mais on s'exclut ça d'emblée sous des prétextes de montrer de la vertu. C'est une bonne proposition, mais sinon, en termes d'autres éléments sur l'environnement, des aires protégées, la protection de l'eau potable, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est apparu?
Évidemment, on est des conservateurs. Hein? On aime ça conserver son ressource.
Yes.
On aime ça conserver notre eau, notre air, notre terre. Donc oui, il y a différentes propositions là pour protéger à long terme et pour s'assurer d'un développement durable de notre territoire. Mais tu sais, le problème avec le dossier de l'environnement, là, c'est toujours le même. Ça avait été la même chose avec Philippe Couillard, rappelez-vous. C'est que là, ils voient des conférences des Nations Unies, puis ils s'en vont à l'international, puis ils veulent bien paraître avec des discours verts. Et ils arrivent là, puis ils oublient là, la réalité mondiale, puis ils veulent que le Québec soit plus vert que vert. Et là, ils font un virage à 180. Puis François Legault a fait la même chose à Glasgow récemment. L'environnement, là, si les gaz à effet de serre, par exemple, là, ils se transportent, là, ils n'arrêtent pas aux frontières. Là. Quand même qu'on les éliminerait complètement demain matin, là, puis qu'on déciderait qu'on abolit les autos au Québec, puis qu'on va tout marcher, puis se promener à vélo, là, si les Chinois puis les Indes s'en vont dans le sens contraire, là, l'environnement va continuer à se détériorer. Il faut arrêter de penser en vase clos, puis penser que le Québec peut à lui seul renverser la tendance. On est déjà ceux du continent qui en émettent le moins parce qu'on a la chance d'avoir de l'hydroélectricité qui est relativement verte. Puis on essaye de démontrer qu'on est encore plus vert que les autres. Et tu sais, c'est bien beau de dire, là, il y a eu une escalade, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais la CAQ qui vont réduire de 37% les gaz à effet de serre. Le Québec solidaire a fait de la surenchère. 55%. Mais ça, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, là, mais il faut faire qu'un moment nous explique comment ils vont faire ça. Parce que concrètement, là, Québec solidaire, il éliminerait l'agriculture, puis il éliminerait toutes les voitures au Québec. Puis la CAQ, eux autres, qui éliminerait 80% des voitures. Fait que c'est ça que ça veut dire, là.
Pourtant, c'est pas ça qui... C'est pas ça qui est nécessairement toujours le plus polluant. Ailleurs, c'est beaucoup les centrales énergétiques. Puis l'exportation d'électricité, cheval de bataille de François Legault, on sait pas nécessairement si c'est vraiment lui qui mène ça, puis où il est chanceux d'avoir une bonne PDG d'Hydro-Québec avec les succès qu'on voit là, vers la Nouvelle-Angleterre, l'État de New York. Est-ce que ce serait quelque chose qui est visé aussi par le Parti conservateur du Québec qu'on réussisse à verdir un peu des productions d'électricité de nos voisins?
Oui, c'est ça. Ça, c'est une affaire qui est importante que tout ce que tu soulignes là, parce que il n'y a pas juste de baisser nos propres gaz à effet de serre, mais au Québec, en exportant notre électricité, on peut faire réduire nos voisins aussi, là. Et malheureusement, ça serait pas comptabilisé comme des gains pour le Québec, ça. Mais c'est vrai que t'as raison que sur un point de vue environnemental, ça serait encore plus important de faire ce genre de choses-là. Puis on voit que les Américains là-dessus sont très protectionnistes, là. Ils veulent pas tout, hein. Il y a beaucoup de résistance à l'achat de notre énergie. Et des grosses batailles qui sont en vue, que le gouvernement, au lieu de focaliser sur des batailles internationales de bien paraître. Là, ouais. Devrait focaliser sur ces batailles-là. Elles sont pas mal plus importantes, autant pour l'environnement que pour l'intérêt économique des Québécois.
La Chine ne se gêne pas pour interférer dans les élections américaines. Non. On s'ennuie de Paul Lepage comme gouverneur du Maine. Ça pourrait être une bonne idée qu'on... Ça se dit pas nécessairement officiellement comme ça, mais qu'on interfère un peu dans la prochaine gubernator race dans le Maine.
Ça, c'est un paradoxe. Hein? C'est un paradoxe que les politiciens québécois et les médias québécois, habituellement, ont toujours un parti pris, ou comment je dirais ça, un petit côté là, très pro-démocrate par rapport aux États-Unis. Donc, oui. Quand on regarde, oubliez les politiques américaines, là, pensez juste à notre intérêt à nous. Mmh. On a toujours intérêt à avoir des politiciens le moins protectionnistes possible aux États-Unis, qui sont normalement des républicains. Ceux et celles qui ont toujours mieux ouvert leurs frontières à nos produits, en tout cas historiquement, ça a souvent ou à peu près tout le temps été des républicains. Alors que quand on lit les journaux ici, c'est toujours les démocrates qui ont bonne presse. C'est
Joe Biden, ça a pas niaisé qu'il a coupé le pipeline, puis il n'a permis un aux Russes vers l'Allemagne quelques mois plus tard. Ouais. Pas de doute, les paradoxes sont nombreux. Je voulais te parler de l'équipe, une autre question dans la candeur avant qu'on se laisse. Quelques mots là-dessus, comment ça avance les candidatures, puis l'entourage?
Oui, mais d'abord, il faut que tu comprennes que moi, il y a un an, j'annonçais que je me présentais à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Le parti avait 500 à 600 membres. Au moment où je vous parle, on en a 38 000. Okay? Hey. Notre premier objectif, c'était d'augmenter notre membership. Non seulement on l'a augmenté, on l'a fait exploser. Puis on est aujourd'hui le parti politique au Québec qui compte le plus de membres en règle. Deuxièmement, on avait besoin d'argent. En 2021, le Parti conservateur du Québec, de tous les partis d'opposition à la CAQ de François Legault, on est le parti qui compte le plus grand nombre de donateurs, tout parti confondu, de l'opposition. Ouais. Ensuite de ça, on avait besoin d'être représenté à l'Assemblée nationale. Depuis le mois de juin, on a Claire Samson, le député de la CAQ, qui a quitté François Legault et qui s'est joint à nous. On est maintenant représenté à l'Assemblée nationale. Mmh. Après ça, ça nous prenait un programme. En fin de semaine dernière, on vient d'en parler, on s'est doté d'un programme politique qui, moi, je pense, est pas mal complet. Et là, la prochaine étape, c'est d'avoir des associations dans chacune des circonscriptions. Au moment où je vous parle, on en avait zéro, là, il y a un an. Mais au moment où on se parle, on a à peu près 90 sur les 125 circonscriptions.
OK.
Et la dernière étape, ça va être le choix de nos candidats. Et ça, on va commencer ça au mois de janvier. Parce qu'on peut pas mettre la charrue devant.
Mais non, ça prend des associations en premier. Mais 90 sur 125, c'est déjà une avancée intéressante. Puis généralement, quand ça se met en place, ça, il y a des candidatures qui sont déjà un peu naturelles qui arrivent avec.
C'est ça, parce que tu peux pas partir, faire des associations si tu n'as pas de membres. Fait que la première étape, c'était les membres. Après ça, il fallait. Puis les sondages aussi, ça aide. Là. Ça, c'est l'autre affaire. On est passé de 1 à 11 puis on continue à être en croissance, en tout cas, on l'espère. Donc, ça aussi, ça attire encore plus de monde, ça attire encore plus de candidats, entre guillemets, vedettes. Là. Donc, on va travailler là-dessus, mais en début d'année, on va annoncer le processus, puis on va commencer à annoncer nos candidatures aux quatre coins du Québec.
On va suivre ça avec intérêt. Éric Duhaime, merci énormément pour le temps. Bonne chance avec ça. Félicitations encore pour le membership. Je pensais que vous étiez à 20 000, puis j'étais déjà impressionné. Ça va bien.
38. Toujours un plaisir de vous jaser, les gars.
À bientôt.
Merci, bye.
Éric Duhaime, mesdames, messieurs, les gars et filles.
Oui, c'est correct, j'avais compris.